Bonjour à tous. Voilà, c'est une charge, mais je l'ai acceptée et je me suis préparé avec joie et avec sérieux comme à l'habitude. Nous allons faire deux lectures, si vous le voulez bien. La première dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, à compter du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements ? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dérobreras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, tu honoreras ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et puis un peu plus loin, je lis au verset 27, Jésus regarda les disciples et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » J'ai donné pour titre à cette exhortation « Dieu peut tout pour moi. » Dieu peut tout pour moi. Nous pouvons faire une deuxième lecture, si vous le voulez bien. Dans Ésaïe 45, c'est l'Éternel qui parle à Cyrus, son oint, qu'il tient par la main, et il lui dit, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et un peu plus loin, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Revenons à l'évangile de Marc. Marc, dans son évangile, présente Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et cet évangile suscite la foi dans le cœur des lecteurs. Cet évangile se prête mieux que les trois autres évangiles à la découverte de la bonne nouvelle et à un premier contact avec le Seigneur Jésus. Marc y dépeint Jésus comme un homme d'action, comme le Fils de Dieu, comme Sauveur de l'humanité. Alors, que pouvons-nous dire au sujet de notre première lecture, notamment de ce jeune homme ? Je ne sais pas comment il vous apparaît, mais il m'est assez sympathique. Il nous est dit qu'il est riche. On voit que son cœur est bien disposé, puisqu'il est appliqué, nous est-il dit, à observer la loi juive. Il le dit d'ailleurs, « J'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » pense que c'est un jeune homme ayant bonne moralité, une moralité qui n'est plus à prouver. C'est ce qui ressort de cette lecture. Et je serais tenté de dire, quel beau chrétien il ferait parmi nous. Vous n'êtes pas d'accord ? Quel beau chrétien il ferait parmi nous. J'irais même jusqu'à dire que si des parents avaient une fille à marier, quel beau parti ce serait, n'est-ce pas ? Il nous est dit qu'il avait de grands biens. Pas seulement une petite maison, coquette, gentille, une belle voiture. Il avait de grands biens. Il est précisé au verset 21 que Jésus le regarda et l'aima. Dieu nous regarde et Dieu nous aime. Dieu nous regarde et Dieu nous aime. Ce regard que Dieu porte sur toi, sur nous, sur moi, est un regard aimant, compatissant et miséricordieux. Le problème qu'a ce jeune homme, dont l'existence est enviable, est que son cœur est partagé. Et Dieu n'apprécie pas les cœurs partagés. Les Écritures nous révèlent que Dieu peut se montrer un Dieu jaloux. L'affection démesurée que ce jeune homme porte au bien matériel est un handicap qui le retient et l'empêche de répondre à l'appel de Jésus qui lui dit de le suivre. Être riche n'est pas un problème en soi, mais trop de richesses peuvent se révéler comme un obstacle pour répondre à l'appel de Jésus. Je pense à cette prière, je l'ai relevée, de Proverbe 38. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'en étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que pauvre, je commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Je crois que les Écritures nous mettent en garde contre ce penchant à vouloir s'enrichir. Pour certains, cela se fait au détriment des autres. Pour d'autres, s'enrichir, c'est le seul but qu'ils poursuivent. Seul but à atteindre. Et les conduisent dans un investissement irraisonné de leur personne. Parfois, on l'a vu, au détriment de leur santé, au détriment de leur équilibre, au détriment de l'équilibre du foyer s'ils sont mariés. Bien-aimés, si vous possédez des biens, tant mieux, je me réjouirai avec vous. Je me réjouirai avec vous. Toutefois, n'y attachez pas votre cœur. C'est la source de difficultés, voire d'éloignement de la personne bénie du Seigneur. Les sentiments du cœur de ce jeune homme à cet instant précis où Jésus l'appelle lui font faire un choix regrettable et malheureusement déterminant pour son avenir. Tout au long de la vie, nous sommes appelés à faire des choix, mais il en est un qui est des plus importants, celui-là, qu'il nous faut faire de notre vivant. Ce choix concerne notre devenir éternel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui, Deutéronome 30, 19. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Est-il besoin de vous rappeler, de préciser que l'homme ne peut se sauver lui-même? Combien même il serait généreux à l'exemple de ce jeune homme, plus encore d'un certain Zachée qui lui aussi était riche et qui, vous le savez, lorsqu'il avait fait du tort à quelqu'un, rendait au quadruple, quel homme, au quadruple, ce qu'il avait dérobé ou pris. Et qu'il éprouvait le besoin de donner la moitié de ses biens. Jésus lui dira, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Au verset 27 de notre texte, nous lisons, « Il est impossible aux hommes de se sauver, mais non à Dieu, car tout est possible. » Nous avons été amenés, j'ai été amené plus précisément, pas plus tard que ces jours-ci, à rappeler à notre petite fille qui connaît une somme de difficultés, de lui rappeler que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alors, j'ai fait ce constat, on peut le faire, hein, sans porter aucun jugement, bien évidemment, ce constat qu'il y a parmi nous des malades. D'ailleurs, tout à l'heure, il y aura l'onction d'huile. Et si cela était, alors je mets plein de points d'interrogation après, hein, et si cela était par un manque de foi de la part de ces personnes, ou collectivement un manque de foi de la part de l'Église, collectivement, un manque de foi de la part de l'Église, je crois que cela vaut la peine que l'on s'interroge. Tout est possible à Dieu, y compris de nous guérir de nos maux les plus divers, les plus tenaces. Dieu guérit aujourd'hui. Il est le Dieu de toutes les restaurations, vous m'entendez ? Il est le Dieu de toutes les restaurations. Je vous ai invité il y a quelque temps à prier pour une jeune femme militaire revenue d'Afghanistan, brisée, cassée, désespérée au point qu'elle a voulu attenter à ses jours. Elle se prénomme Lara. Et donc à la maison, nous avons véritablement à cœur de prier pour elle. Et nous ne sommes pas les seuls. Et voilà que nous avons eu cette semaine la bonne nouvelle qu'elle est revenue dans son pavillon, son petit pavillon, et que là, elle commence à reprendre goût à la vie. Alors, il reste encore beaucoup à faire parce que les dégâts sont nombreux. Elle est vraiment brisée, elle est vraiment cassée, mais nous a-t-on dit, elle reprend vie, goût à la vie. Merci pour vos prières. Dieu entend nos prières. Et si nous sommes malades et si nous le prions, la guérison doit suivre. Alors, à cette absence d'exaucement, hein, parce que cela arrive qu'on ne soit pas exaucé, il peut y avoir d'autres raisons. Mais bien aimé, Bien-aimé, avez-vous essayé, insisté auprès de Dieu pour votre guérison? Essayez à nouveau de le prier en mettant toute votre foi en action et vous verrez que notre Dieu peut tout et qu'il est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. C'est une digression au passage, mais qui, je crois, était nécessaire et comme je vous l'ai dit, nous avons cru bon de le rappeler à notre Mathilde. En acceptant de se dépouiller, ce jeune homme riche serait devenu héritier, co-héritier avec le Christ des richesses du ciel. Il a été question d'héritage ce matin. Il y a une suite. L'Esprit est là pour inspirer les uns les autres. Nous sommes héritiers, co-héritiers des richesses du ciel. Vis-à-vis de ce jeune homme, Jésus attendait qu'il fasse ce pas de foi que je vous exhorte à faire, si vous êtes dans le besoin. Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Cet homme s'en alla tout triste. Alors on me dit que je suis direct dans mes prédications, dans mes exhortations, mais je vois que Jésus aussi parle avec vérité. Il enfonce le clou sans ménager son auditoire. Nous avons un conseil dans Proverbes. Il nous est dit, Proverbes 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petits cartons, là, qu'on était à même de piocher aux fêtes des enfants, à l'approche de Noël. Alors, j'ai reçu celui-ci. Enfin, j'ai pioché celui-ci, exactement, dans la corbeille. C'était « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Waouh ! Ça m'a fait drôle, hein ? Ça m'a fait drôle, et je ne vous cache pas que j'aurais préféré entendre toute autre chose. J'aurais préféré entendre toute autre chose. Par exemple, l'Éternel, ton Dieu, conserve son amour jusqu'à la millième génération. Ça, j'aurais bien aimé l'entendre, ou le lire plus exactement. Ou encore, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça m'aura encore beaucoup plu. Ou encore, verset que j'affectionne particulièrement, l'amitié de l'Éternel est pour celles et ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 24. Oui, j'aurais préféré piocher l'un de ces versets. Mais il était important pour moi de recevoir de mon Dieu ce conseil de garder mon cœur plus que toute autre chose et de veiller sur mes pensées. Parce que dans les mois qui ont suivi, dans les années qui ont suivi, au niveau de la pensée, j'ai vraiment beaucoup dégusté. J'ai connu des combats, on a livré des luttes ensemble, là où nous étions, à Saint-Malo, puis à Vannes. On a toujours été un peu dans le combat. Mais là, au niveau de la pensée, je n'avais jamais connu cela. au point même que je me suis demandé si j'allais pas me mettre à douter de la parole de Dieu. Un comble. C'était une autre forme de combat, voire d'intimidation de la part de notre adversaire, le diable. Le diable sait que le cœur peut être influencé, que c'est là qu'il faut attaquer. Il le sait. Et vous savez, la parole de Dieu le désigne comme étant meurtrier des le commencement, menteur. Il est en fait l'ennemi juré de nos âmes. Par notre foi, en nous appuyant sur la parole de Dieu, nous triomphons de lui. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée avec foi, et je sais ce que je dis, lorsqu'elle est prononcée avec foi, à haute voix, a pour effet de le faire fuir loin de nous, tout comme prononcer le nom de Jésus. Alors, si nous sommes de temps à autre confrontés à cet adversaire, il faut savoir que nous faisons l'objet de l'attention, de toute l'attention et de l'affection de Dieu. Job le dit, Dieu veillait en ami sur ma tente. Dieu veillait en ami sur ma tente. L'importance de donner son cœur à Dieu une bonne fois pour toutes. Si vous ne l'avez déjà fait, je vous l'invite à le faire aujourd'hui. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est un homme qui s'apprêtait à commettre le péché avec une fille, comme l'on dit, de mauvaise vie qui était là sur son chemin. Et il nous est dit qu'il y a eu cette supplication de Dieu à ce fils en proie à la tentation, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Je dis à quelqu'un ce matin, « Donne ton cœur, sans plus attendre, aujourd'hui, afin que Dieu te garde et te préserve du mal. » Il y a cette précision dans les évangiles qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donner son cœur à Dieu, lui donner notre vie, sa vie, c'est assurer son avenir éternel. Vous savez que le cœur de l'homme n'est pas naturellement disposé à faire le bien, mais il est plutôt enclin, porté à faire le mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et le cœur de Dieu fut affligé. On trouve ceci, cette précision, dans Genèse 6 et versets 5 et 6. Que dit encore nos Bibles ? Je serai rapide. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout méchant. Le cœur est tortueux par-dessus tout, une autre version dit, il est incurable. Alors n'essayez pas de vous sauver vous-même par de faux raisonnements, par toutes sortes de pensées fallacieuses que pourrait mettre l'ennemi dans votre cœur. Ne vous laissez pas abuser. Nous avons tous besoin du salut qui est en Jésus-Christ, qu'il nous a acquis à la croix, et il l'a fait d'une manière parfaite, et ce salut est parfait. Vous ne dites pas Amen ? Et ce salut est parfait. Il est en Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Il est important, parce que l'on ne peut se sauver lui-même, de se voir comme Dieu nous voit. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Si je regarde ce que j'ai fait, je me dis, qu'est-ce que je suis bien. Enfin, j'ai pensé comme ça à une époque, avant de connaître le Seigneur. Je pensais que tout ce que je faisais était bien, que c'était droit. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme, l'homme estime que ses voies sont bonnes. Eh bien, il faut se détromper. Ce n'est pas vrai. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin que notre péché soit effacé et pardonné. Et Dieu, qui peut tout, veut le faire. Aujourd'hui encore, seule l'appréciation de Dieu compte. Qui connaît nos cœurs ? Salomon dira, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun. Car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Pas un seul n'échappe au regard de Dieu. Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre voit tout ce qui se passe sur tous les cieux. Pour moi maintenant, qui ai fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, qui a été réconcilié, de savoir que Dieu me voit et me connaît mon cœur, me rassure plutôt. Pas vous ? Je pense que pour la grande majorité, cette question du salut est réglée et que votre avenir est assuré. Alors c'est bon de savoir que Dieu sait les pensées qui nous agitent. Dieu sait aussi celles qui nous inspirent. Dieu sait les pensées qui nous déstabilisent ou pourraient nous déstabiliser, mais aussi nourrissent notre foi. Dieu sait les pensées qui nous écrasent, nous dépassent, mais aussi celles qui élèvent et sont à même de rassurer nos cœurs. Moi, cela me rassure de savoir que Dieu me voit et que Dieu sait. En 1987, ça a été pour moi l'année de la maladie, quelque chose de fort. Et je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, on ne donnait pas cher de ma peau, comme l'on dit. Véritablement, je me dirigeais vers la mort. Et je marchais déjà avec difficulté, et je passais mes journées entières dans le canapé. Et puis voilà qu'un jour, dans ce canapé où je suis assis pour la journée, je me sens poussé à me lever. Alors je le fais avec difficulté. À ouvrir un petit meuble qui est là, à quelques pas devant moi, dans notre séjour. Et là, à ma grande surprise, je trouve une Bible que je n'ai pas l'habitude de consulter. Je l'ouvre et je lis. Mon âme est affaissée au-dedans de moi. Alors habituellement, ce verset est traduit par « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Si j'avais lu cela dans la Bible que je lisais habituellement, « Mon âme est abattue au-dedans de moi », je pense que ça me serait passé par-dessus. Mais là, j'ai lu « Mon âme est affaissée au-dedans de moi ». Affaissée est exactement ce que je ressens à cet instant-là. Et qui n'est pas sans m'effrayer. Le diagnostic du médecin est posé, il est sévère, et laisse entrevoir un avenir difficile pour notre foyer. Ma réaction a été, à la lecture de ce verset, Dieu me voit et Dieu sait. Là, en ce moment, Dieu m'a vu et il sait. de savoir que Dieu avait une parfaite connaissance de mon état fut d'un grand réconfort et m'a permis d'aborder sereinement les jours, semaines et mois qui allaient suivre. Dieu lit jusque dans nos cœurs. Vous m'entendez bien ? Dieu lit jusque dans nos cœurs et il connaît les pensées qui nous agitent, qui nous troublent, qui nous déstabilisent. Il sait. Rien ne lui échappe. Dans la situation douloureuse que tu connais, Dieu sait ce qu'il te faut et ce qu'il doit mettre en œuvre pour changer tes larmes en joie, en pleurs de joie. C'est au pouvoir de Dieu. Dieu peut tout, changer des larmes en pleurs de joie. Dieu se veut présent dans nos combats, dans nos luttes, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est un Dieu secourable, constant et fidèle dans l'amour qu'il porte à chacun. Recevez dans vos cœurs sa parole. Recevez-la. Mettez-la en pratique. Vous ne serez ni abusé ni déçu d'avoir cru, mais vous verrez que cette parole est vie. Ne nous comportons pas en insensé, persistant à croire que Dieu ne puisse agir. Ils sont inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors vous allez me dire, oui, mais ce verset, ce n'est pas pour les chrétiens que nous sommes, c'est pour les inconvertis, ceux qui résolument ont tourné le dos à Dieu. Oui, mais c'est le rappel que l'on peut avoir des pensées dans nos cœurs qui nous égarent. Et les chrétiens ne sont pas épargnés. Les enfants de Dieu ne sont pas épargnés. Alors je vais donner l'énonciation de quelques versets. Psaume 139, 16, pour montrer que Dieu tient à nous et qui nous a vus. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient sur ton livre, étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dans Jérémie 29, 11, je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça vaut la peine de nourrir son cœur de ces affirmations. Ou encore, Matthieu 10, 30, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, soyez sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vois qu'il sourit. Oui, Dieu connaît où nous en sommes. Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez, il y a toutes sortes de pensées qui nous prouvent que Dieu n'a cesse de penser à nous. Il se réjouit dans la perspective. On trouve cela dans Romains 6, 22. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Jésus a pu dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec vous afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pas beau cela ? Quelle espérance, n'est-ce pas Laurent ? De savoir que Jésus revient et c'est pour bientôt. Apocalypse 21, 3, 4, j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » car les premières ont disparu. Et présentement, que fait Dieu pour nous? Que dépose-t-il dans nos cœurs? L'espérance, Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et encore, Jean 14:27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et encore, Dieu prêt à agir, on le voit avec cet infirme de naissance qui n'avait jamais marché, qui écoutait Paul parler. Il est dit que celui-ci le fixa et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, Paul lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Je termine, manque de foi individuelle ou collectivement, je vous dis, Dieu sait, Dieu voit. Et je citerai seulement ce cœur qui était là ce matin à mon réveil. Dieu peut tout, n'importe où, pour chacun parmi nous. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Te sauver, te guérir, de l'esprit te remplir. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Si tu crois, tu verras que Jésus ne change pas. Viens à lui, viens aujourd'hui, il te bénira. Mes amis, je crois que la balle est dans votre camp. Croyez que Dieu peut tout et vous allez voir de belles choses se faire dans les instants qui vont suivre, dans les heures qui vont suivre, dans les jours à venir. Dieu va se révéler comme le Dieu qui est tout-puissant. Béni soit son nom. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, pour ce qu'on peut y en retirer, pour alimenter notre foi, l'augmenter, l'affermir. Pour ma part, je te loue de ce que tu m'as donné, toutes ces pensées sur le cœur, pour pouvoir les dispenser là, maintenant, pour l'édification de l'Église, pour le bien de plusieurs, et pour que tu puisses ainsi donner gloire à ton nom dans la vie de quelques-uns qui ont besoin de ton secours et de ta grâce. Sois-en remercié dans le nom de Jésus. Amen.